Alors, 30 ans de politique de la ville, 30 ans de politique de la ville, tout de même, c'est beaucoup. Une politique de la ville qui s'est beaucoup bureaucratisée et qui a laissé, au définitive, les habitants en dehors de son fonctionnement. La loi Lamy est une loi qui est censée remettre les habitants au cœur du fonctionnement de la politique de la ville. Mais avant de rentrer dans le détail de cette loi Lamy, avant même de parler de cette loi, il faudrait faire quelques bonds en arrière et parler un petit peu d'une approche plus historique de cette histoire de la participation. Il y a eu d'autres lois, hein, des lois sous Jospin et d'autres lois encore. Alors Claude, tu as voulu, en introduction, faire un petit historique de cette histoire de la participation des différentes lois qui ont cherché à impliquer les habitants dans le cadre des politiques de la ville.
Oui, alors comme la vie est lente et comme l'espérance est violente, disait Jean-Marie Delarue en 91 en faisant un rapport qui s'appelait La relégation. Et la relégation, il ne l'avait pas choisie pour rien. Il parlait des quartiers en disant que normalement c'était un terme quand on parlait des bagnards. On les reléguait à Cayenne. Donc, vous voyez, il avait une vision qui n'était pas très optimiste de cette aventure. Et cette expression, pour moi, vient avec un sentiment un peu... Tu m'as demandé de faire l'historique. À cette occasion-là, j'ai replongé dans un certain nombre de documents, puisque j'ai été acteur, on pourrait dire, au niveau national, de ces politiques, de la question de la participation. Et je crois que j'ai une colère, non pas contre la loi Lamy, mais contre toutes les lois qui jusque-là n'ont jamais été appliquées. L'État est défaillant et je crains effectivement que la loi Lamy se transforme non plus en loi, mais en un des dispositifs éphémères dont la politique de la ville nous a servi depuis des années et qui ne permet pas la réelle appropriation par les habitants de toutes les questions qui les touchent dans le cadre de la politique de la ville, leur quotidien, leur vie, leur ville.
Alors Claude, dans ton archéologie, tu as remonté jusqu'à où au niveau des dispositifs législatifs ?
Je ne remonterai qu'en 1970, où effectivement ont été mis en place ce qu'on appelait Habitat et Vie Sociale, qui était une des premières opérations où l'État a voulu effectivement regarder la situation des habitants et leur faire parler de leur expertise d'usage de l'État, de ces grands immeubles qu'on avait construits pour accueillir l'immigration, pour accueillir après la guerre d'Algérie toutes les personnes qui rentraient, et donc pour répondre à la grande nécessité de loger tout le monde. Et dès 1970, Habitat et Vie Sociale a commencé à parler de la participation des habitants. J'ai eu l'occasion de participer à ce type de processus où j'ai vu un bailleur social, nous en avons plus un sous la main, qui nous disait, dans un endroit qui était désastreux en termes de qualité de l'habitat, mais là, avec cette opération, vous pouvez rêver, tout est possible, on va vous transformer votre quartier. Et au bout du compte, la seule chose qui a été possible, c'est de réparer les prises, c'est de réparer les robinets qui étaient complètement défaits dans ces quartiers. Ça, c'est Habitat et Vie Sociale. Et puis, en 81, est arrivée la politique dite de la ville aujourd'hui, une politique qui avait l'ambition de partir de la volonté et de la participation des habitants, qui a mis au cœur de la capacité de transformer les quartiers, les habitants et leur capacité de participer à ces projets. On retrouve c'est quelque chose qui est devenu malheureusement une ritournelle tout au long de la politique de la ville. Dans les années jusqu'en 1991, où enfin un ministre de la ville a été nommé, qui devait taper sur la table pour permettre que toutes les expérimentations, développement social des quartiers et autres puissent prendre une autre envergure, faire travailler tous les ministres ensemble, être celui que c'était Michel Delbarre. Je me rappelle l'avoir entendu arriver à la délégation interministérielle à la ville et dire « Vous n'êtes que 50 dans votre mission, mais vous allez être ceux qui vont m'aider effectivement à répondre à l'ambition qui est la nôtre. » Bon, on n'était effectivement que 50. La politique de la ville n'a jamais eu un vrai ministère. Elle a eu des missionnaires qui ont fait comme ils pouvaient. Et un certain nombre de gens ont dit cette chose qui m'est resté déjà à l'époque pour que ça, pour déjà un peu pessimiste dans leur expression, une chercheuse, elle a dit il y aura encore longtemps des militants de la politique de la ville, qu'ils soient aménageurs, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient élus, qu'ils soient habitants, qu'ils soient associatifs, si on veut un jour arriver à l'ambition de la transformation et du droit commun dans les quartiers. Donc cette politique avait un caractère un peu d'exception qu'on a appelé de discrimination positive. C'est effectivement tout au long de ces années, de 25 ans, 30 ans aujourd'hui, mis en place ce que j'appellerais effectivement des dispositifs et pas des lois. Une seule loi aujourd'hui concernant la participation des habitants, avant celle que M. Lamy a mis en place et qui n'a pas été mis en place à Marseille. Nous sommes l'exception marseillaise des lois qui ne se mettent pas en place. C'est les conseils de quartier. En 2002, Jospin, poussé par y compris un certain nombre de rapports que nous avons pu faire à la délégation, à la ville, je ne vous lirai que les grandes lignes de ces rapports. C'est vous montrer à quel point on avait déjà insisté dans l'institution aux difficultés. Ça s'appelait une volonté politique affichée et réaffirmée, un bilan plutôt pessimiste, 97. Un dispositif législatif inachevé. À la recherche, deuxième chapitre, à la recherche de la participation des habitants, quelques années plus tard, et après de la participation des habitants à la citoyenneté. Vous voyez, on se rapproche déjà de nos conseils citoyens, mais on n'y est pas encore à l'époque. Mais c'est de ça que Jospin va s'inspirer pour mettre en place les conseils de quartier qui avaient cette volonté d'être quelque chose d'ascendant et non pas de descendant, comme jusqu'à maintenant les politiques nous étaient balancées d'en haut avec beaucoup de condescendance concernant les quartiers. Les rôles des uns et des autres dans ces politiques ont été très importants. Il y a des professionnels qu'il ne s'agit pas d'opposer aux habitants. Ici, on a regretté tout à l'heure l'absence de ce que moi, à l'époque où je travaillais à la politique de la ville, on appelait les moutons à cinq pattes, qui sont les chefs de projet de la politique de la ville, qui sont censés effectivement faire le lien entre l'État, les collectivités locales, les habitants, les associations, le territoire. Et on sait qu'aujourd'hui, ces professionnels-là ont perdu beaucoup de leur légitimité et ont donc vécu ce que Chantal Talon nous a dit en venant nous voir à Marseille. Ils sont un peu, ils sont encore dans ce qu'on a écrit en 97, dans une forme de pessimisme sur le mode de participation et sur la capacité que les habitants puissent leur apporter les contributions qui leur permettront de transformer la ville et non pas. Je pense que tous vous avez lu La Provence. J'embraye sur l'actualité. Vous avez vu qu'on vient de perdre 100 millions de financement de la politique de la ville qui n'ont pas pu être engagés. Et j'ai été extrêmement choquée de lire dans la presse des services de l'État qui sont aussi censés nous accompagner dans notre démarche des conseils de quartier comme des conseils citoyens. Cette phrase, le préfet Cadio fait un état des lieux de pourquoi on n'a pas réussi à dépenser. Et entre autres, il dit, je ne reprends pas le journal, mais vous pourrez le noter, il dit que effectivement la concertation des habitants a été un élément qui a freiné les prises de décision pour la transformation, urbaine. Donc vous voyez qu'on en est encore loin pour que l'ensemble de ceux qui sont les décideurs, l'État, les collectivités locales, prennent en compte, y compris les lois, qu'on essaye de mettre en place. Et quand je dis de la participation des habitants à la maîtrise d'usage des habitants, quelque part, il y a chez moi une volonté que cette maîtrise d'usage ne devienne pas une maîtrise d'usure, parce que c'est un peu ce que Chantal Talon nous expliquait aussi, c'est qu'il y a une forme d'usure, y compris des habitants qu'on a sollicités et qui ont vu à quel point ils n'ont pas été entendus. J'ai peur qu'il y ait déjà une petite usure, mais j'espère que non, parce qu'il y a les pas sans nous et qu'on est là pour la mise en place des comités citoyens. Déjà, on est si peu entendu sur les questions fondamentales des territoires sur lesquels vont s'exercer nos actions. On est déjà extrêmement, choqué du fait qu'un certain nombre, la manière dont se montent ces conseils citoyens ne s'appuie pas sur le tirage au sort, passe par effectivement le tirage au sort des listes électorales. On sait que ça ne représente pas tout ce que nous on appelle les citoyens. Et donc il s'agit aujourd'hui que la citoyenneté soit vraiment au cœur. Et la citoyenneté, quand je parle de citoyenneté, je parle aussi du droit de vote à l'ensemble des personnes qui sont sur nos territoires. Et dans les conseils citoyens, ces personnes auront toute leur place. Et c'est peut-être ça qui gêne nos élus et nos édiles.